France Culture. Les nuits de France Culture.
En 1993, le comité départemental des retraités et personnes âgées de la Loire lance une enquête sur les conditions de vie de plus de 2000 personnes âgées dans la région. Dans les réponses des concernés, un mot sort bien plus que les autres. Solitude. La solitude et la vieillesse, voilà un duo vraisemblablement inséparable, et pour cause. La mort du conjoint ou des amis, l'éloignement progressif des enfants et de la famille, a souvent comme effet un isolement total de la société. Ils passent des jours, voire des semaines entières, sans parler à personne, sans qu'on leur donne de l'affection, sans que quelqu'un prenne acte de leur existence. Vivant chez eux ou dans des institutions, ils se considèrent comme des êtres déclassés, oubliés par un monde qui ne veut plus d'eux. Ils perdent peu à peu leur volonté, leur ambition, leur joie de vivre, et les petits plaisirs du quotidien cèdent la place à l'ennui profond de la solitude. Dans ce numéro de Grand Angle, intitulé « Les années solitude », le micro de Marc Hughes s'introduit dans un foyer pour personnes âgées du 6e arrondissement de Lyon. On y entend Lucienne, qui pleure la tendresse perdue, Joseph qui a renoncé à l'amour, Madame Caro qui, elle, a hâte de mourir, mais aussi Marguerite, Louise ou encore Marie. Autant d'exemples d'une crise à la fois existentielle et sociale, qui repose autant sur la condition humaine elle-même que sur l'incapacité de notre société à trouver un moyen d'intégrer les personnes âgées, comme l'explique la chercheuse Bernadette Puyjalon. Une émission réalisée par Brigitte Aléo et Christine Robert est diffusée pour la première fois le 17 avril 1993 sur France Culture.
Grand Angle. Les années solitude. Un reportage de Marc Gioz, réalisation Brigitte Aléo et Christine Robert.
On a la solitude tous les matins en se levant, moi je suis solitaire. Tous les soirs en me couchant, je suis solitaire. Je viens de passer depuis le 30 décembre, c'est-à-dire le 31, le 1er, le 2, le 3 et aujourd'hui. Eh bien c'est le premier jour où je parle. Je suis restée là, dans mon petit appartement, à broder, mais je n'ai vu personne. Donc, voilà, la solitude, elle est en parole, en gestes. Je pensais, parce que je fais des retours en arrière, moi, quand c'est comme ça, tout en bricolant, tout en travaillant, mon esprit travaille, et je revois tout un tas de choses, et il arrive un moment où je me mets à pleurer, mais à pleurer fortement. Parce que je dis quand même, il y a combien d'années que personne t'a pris vraiment dans ses bras pour te serrer contre lui, pour te donner un peu de tendresse. Il y a des années. Je vois mon fils, mon dernier fils, je le vois. Il y a que lui qui m'appelle encore maman et qui m'embrasse. Mais il m'embrasse comme ça. Bonjour maman. Tu vas bien ? Oui, oui, je vais bien, parce que je dis toujours que je vais bien. Et personne ne m'étreint. Personne ne me... Et moi, j'avais besoin de beaucoup de caresses. J'ai donné beaucoup, beaucoup de caresses à mes enfants. Il ne s'est pas passé un seul soir sans que j'aille les embrasser dans le lit, sans que j'aille les border, sans que j'aille... Et ça, vous voyez, c'est là la solitude. C'est la solitude complète.
Lucienne Trouche, que l'on vient d'entendre, a 78 ans. Elle vit seule, dans un foyer résidence du 6e arrondissement de Lyon. Comme elle, des centaines de vieux viennent de dire leur sentiment de solitude dans une enquête à grande échelle lancée cet hiver par le comité départemental des retraités et personnes âgées de la Loire. Dans ce questionnaire, rempli par près de 2000 vieilles personnes de toutes conditions, la solitude est désignée comme le problème principal, la souffrance première. Certaines ont même pris leurs plumes pour exprimer avec leurs mots leur désespoir d'être seules, de se sentir inutiles, de ne plus rien attendre de la vie que la mort. Pour Grand Angle, nous avons rencontré à Lyon des hommes et des femmes âgés de 78 à 93 ans qui vivent chez eux ou dans une institution. Les unes hurlent à voix basse leur besoin de considération, d'attention, d'intérêt, de tendresse. Les autres racontent une solitude acceptée, source de richesse intérieure et de sérénité. La solitude n'est pas spécifique à la vieillesse, mais ceux que l'on appelle les personnes âgées sont aujourd'hui victimes d'une ségrégation polie, terriblement douloureuse. Dans une société tellement soucieuse des droits de l'homme, pourquoi les vieux sont-ils dépouillés de tout rôle social et tenus à l'écart par les plus jeunes? Quelles sont les causes et les conséquences de cette césure entre les générations? Madame Caro, vous avez quel âge?
Oh, qu'est-ce que vous me demandez là? Oh, mais je me rappelle. Je suis du début du siècle, c'est-à-dire 99. Ça fait combien ça?
Vous êtes né en 1899.
Oui, je crois.
Ça fait 93 ans.
Tant que ça. Ouh, quelle horreur. C'est quand même effrayant de penser qu'on est si vieux. Que... Non?
Moi, vous voyez, j'ai 78 ans et je marche bien. Je cours. Un ancien sportif. La course, je ne la fais plus. Non. Mais de temps en temps, au parc de la Tête d'Or, je tape un petit spring.
Vous vous sentez vieux? Vous vous considérez comme un vieux aujourd'hui?
Eh bien, non. Je ne me considère pas comme vieux. Mais quand je vois un vieux, je me dis je suis comme lui. Mais pourtant, je marche vite. Non, je ne me considère pas vieux. Non.
C'est quoi la vieillesse pour vous alors?
La vieillesse, ben, c'est les gens qui ont tout le temps le cafard, qui pensent au passé. Il faut oublier. Il n'y a que l'avenir. Moi, je regarde le présent et l'avenir. Et je pense à l'avenir, oui. Oui, parce que je ne pense pas mourir demain, c'est tout. Mais pour moi, l'avenir, ce n'est pas à l'an 2000, hein. C'est l'année prochaine.
Bernadette Vessé-Pujalon, vous êtes universitaire, spécialiste des sciences humaines appliquées à la gérontologie. Et vous avez écrit en collaboration avec Jean-Paul de Ramble, « Dépendance et vieillissement ». Vous avez également dirigé un numéro de la revue Autrement intitulé « Être vieux ». Alors justement, être vieux, quelle définition vous pourriez donner aujourd'hui de la vieillesse, du grand âge?
Michel Philibert, dans un texte qui s'appelait « La vieillesse expliquée aux enfants », disait « Le vieux, c'est celui qui a plus d'années que la plupart de ses contemporains ». Alors, ça peut paraître élémentaire, mais en fait, moi, dans sa simplicité, c'est une définition que j'aime beaucoup. Parce que d'abord, elle est relative. On est toujours le vieux de quelqu'un. Pour un enfant de 5 ans, quand on a 20 ans, on est déjà vieux.
On a toujours un âge. C'est pour ça que vous refusez le terme de personnes âgées?
Oui, je trouve que ça ne veut rien dire. Tout le monde a un âge. Alors que le terme vieux, je trouve, il a en lui-même une plénitude. Il a un sens que n'ont pas les autres expressions. Et ce que j'aime bien aussi dans la définition de Philibert, c'est l'insistance. Il dit celui qui a le plus d'années. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur le plus. Alors que dans notre société, on a tendance à décrire la vieillesse, à la définir uniquement en termes de moins. C'est celui qui court moins vite, celui qui entend moins bien. Toute une série de moins biologiques qui existent, c'est vrai, souvent. Encore qu'il faut relativiser suivant les individus. Mais ce que je trouve, c'est qu'on ne peut pas réduire justement la vieillesse ou le vieillissement à un processus simple, où après avoir monté une côte, il suffirait de la descendre. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des moins biologiques, mais il y a aussi ce plus d'années. Et la question, c'est que fait-on dans notre société par rapport à ce plus d'années? On prend beaucoup en charge les moins biologiques, On fait beaucoup sur le plan financier, sur le plan des soins. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a eu de gros efforts faits au cours de ces 10, 20, 30 dernières années. Par contre, on n'a pas suffisamment réfléchi sur de quoi sont porteuses toutes ces années et que peut-on en recevoir. Qu'est-ce que les membres plus jeunes d'une société peuvent recevoir de la vieillesse?
Ah, bonjour, monsieur Thora.
Entrez, monsieur.
Très bien.
Joseph Thora a 78 ans. Un grand bonhomme, mince, droit comme un i, le teint légèrement cuivré, il a la Méditerranée dans la peau et dans la voix. Il y a 5 ans, il a quitté le midi de la France pour venir s'installer à Lyon, où il vit seul dans ce foyer résidence pour personnes âgées. Un immeuble collectif situé dans le quartier Perrache, juste en face des prisons de Lyon. Joseph Thora nous reçoit dans son studio, très simplement meublé, un lit au fond de la pièce, un coin cuisine, et près de la fenêtre, une table et 4 chaises.
On a 32 mètres carrés environ. On est bien, on est tranquille, on a la petite cuisine pour le soir. Et le matin, on se fait le petit déjeuner. À midi, on mange en bas. Il y a un restaurant collectif. Dans la table où je suis, on est 4. Et on est très bien.
Des hommes, des femmes?
Eh bien, il y a un homme et 2 femmes. Ça fait, c'est bien. Mais il y a des tables, il n'y a que des femmes. Il y a d'ailleurs 80% de femmes. Hein? Ou je dirais même 90. Puisque nous sommes 84. Il doit y avoir 6 ou 7 hommes, pas plus.
Ça vous gêne, ça, cette très forte proportion de femmes?
Non, ça ne me gêne pas, mais quelquefois, évidemment, on a besoin de parler entre hommes, jouer à la belote, aux boules, et la plupart sont invalides. La plupart marchent avec des cannes.
Joseph Thora, vous vivez seul ici, vous êtes séparé de votre femme, vous avez une fille qui vit dans le midi de la France. Vous êtes souvent seul, donc vous connaissez la solitude. Comment vous la regardez, vous l'appréciez?
Ben, je me trouve bien seul, mieux que lorsque je suis en compagnie de 50 personnes. Là, je m'ennuie. Des fois, il y a des réunions en bas. On fait des petites sauteries, des gâteaux, tout ça. Ben, je regarde l'heure, je voudrais que ça soit à la fin. Je veux sortir. Et je viens ici, je lis, j'écoute la radio, la télé, et je ne m'ennuie pas. Pour moi, la solitude ne me pèse pas. Quand je suis seul, quelquefois, je réfléchis, je pense. Et je me trouve bien, je vais faire un tour, j'ai le transport gratuit, je vais faire un tour, je reviens, mais j'ai envie de rentrer chez moi, et j'ai envie de rester sans parler pendant des heures.
Et vous pensez à quoi quand vous dites « je pense » ?
Ben, je pense un peu lorsque j'étais gamin, par exemple à Oran. J'avais un copain qui est devenu champion du monde, que tout le monde connaît. Et c'était mon grand copain. Et pendant un an, nous étions ensemble. Marcel Cerdan. Et c'était mon grand copain. Et nous faisions le sport, la course à pied ensemble.
Vous n'avez jamais fait de boxe, vous?
Jamais. Oh, non, non. Et lui, il avait horreur de la boxe. Et il est devenu champion du monde. Marcel Cerdan. On l'appelait Marcelino, parce qu'il était d'origine espagnole. Et puis tous mes amis, j'en ai plus. Ils sont tous morts. Tout le monde a disparu.
Alors ça, est-ce que c'est pas une source de souffrance finalement, une forme de solitude difficile à supporter, fait de se sentir sans ceux qu'on a aimés autour de soi?
Justement, cette solitude, elle est attribuée à ça parce que je n'ai plus les amis. Ils sont décédés, pour moi, ben, je me fais une raison. Je me dis, ben, les nouveaux, c'est très difficile à se faire un ami. Et mon père me disait, tu sais, pour avoir un ami, il faut manger un sac de sel avec lui. Ça veut dire, il faut vivre longtemps. Ça fait que maintenant, je ne pense plus, à mon âge, à chercher des amis. J'ai des camarades. de camarades lorsqu'on joue aux boules, lorsqu'on joue à la belote. Mais c'est tout. Le lendemain, on ne se voit pas pendant 15 jours. Et puis ça ne me manque pas. Et ici, je suis seul, tout le temps seul.
Vous avez exercé un métier que vous avez beaucoup aimé. Vous étiez ébéniste. Vous faisiez des meubles de style, je crois.
Je faisais des meubles de marqueterie, de la Renaissance, Chipenda, la Renaissance espagnole. Et tous les meubles, la copie d'anciens. On faisait la copie d'anciens aussi.
Vous avez travaillé sur des styles espagnols, berbères.
Oui, tous les styles. Tous les styles.
Vous avez exercé votre métier dans 3 ou 4 pays, je crois.
Oui, j'ai travaillé en Algérie, au Maroc, en Espagne. Et en France.
Est-ce que de ce point de vue-là, vous ressentez un vide, une forme de solitude liée peut-être à un sentiment d'inutilité
C'est vrai. Je me sens inutile, oui, c'est vrai. Des fois, je pense, si je pouvais avoir un établi, travailler une heure le matin, une heure l'après-midi.
Former un jeune, peut-être.
Justement, j'ai pensé à ça. Il faudrait qu'ils fassent des écoles avec des gens, des personnes âgées comme moi, quand, gratuitement, généralement, qu'on apprenne à travailler, parce qu'ils ne savent pas travailler, les jeunes, pour ajuster une porte, un tiroir qui force, tout ça. Ils ne savent pas s'y prendre. C'est la vérité, ils ne savent pas s'y prendre. Il faudrait que nous, on les apprenne. Et ça, il faudrait que quelqu'un s'en occupe. Oui, c'est vrai. Je me sens inutile en ce moment.
Vous avez été marié pendant longtemps, vous vivez seul aussi de ce point de vue-là.
Ah, oui, là-dessus, je suis un homme seul. Oui. En ce moment, je suis un homme seul. Et puis, je ne pense pas à refaire ma vie. Ça, c'est fini. Complètement fini. Maintenant, 78 ans. Même que je me sens fort, je me sens bien. Mais non, tout ça, c'est du passé pour moi. Je n'y pense plus.
Vous n'avez pas envie de rencontrer une femme que vous aimeriez ?
Non, je n'ai pas envie. Franchement, je n'ai plus envie. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans, oui. Maintenant, c'est fini. Complètement.
Vous le dites tranquillement, apparemment sans souffrance.
Non, sans souffrance. Non. J'ai vécu bien, je ne regrette rien.
Vous pensez à la mort, souvent ?
Oui. Oui, j'ai pas peur. J'y pense, oui. Je me dis, je suis arrivé à 78, peut-être j'arriverai à 79. Merci.
Louise Meunier, vous nous recevez ce matin là, dans le petit salon de télévision de la maison dans laquelle vous vivez et qu'on appelle une MAPAD, une maison pour personnes âgées dépendantes. En quoi vous êtes dépendante ? Pourquoi êtes-vous dépendante ?
Parce que je suis seule. Je suis vraiment seule. Et là, je pensais trouver un petit peu de compagnie.
C'est la raison pour laquelle vous êtes venue dans cette maison il y a 2 ans ?
Parce que j'ai eu cet accident.
Quel accident ?
Je suis tombée et en voulant me relever, j'ai fait des efforts. J'ai coincé ma jambe sous l'armoire à glace. Ça m'a déclaré un ulcère. Et j'ai dû me faire sauter un nerf. J'ai toujours mal au genou depuis.
Qu'est-ce que vous pensez de ce choix 2 ans après ?
Que j'aurais mieux fait de rester chez moi, bien sûr. Mais si j'avais été malade. Parce que les premiers temps que j'ai eu cet accident, dans ma maison, je marchais avec 2 manches à balai, vous voyez, pour me tenir. Vous voyez, j'ai comme entourage des neveux. C'est eux qui m'ont un peu influencé en disant, mais si vraiment il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on ne peut pas se déranger sans arrêt. Alors voilà. De peur d'ennuyer les autres, je suis rentrée là.
Et vous avez fait quoi dans votre vie à la Croix-Rousse?
Un peu tout. Les derniers temps, j'étais dans les écoles, écoles maternelles, comme femme de service. Et autrement, avant, dans le commerce. Épicerie.
C'est des métiers où vous avez toujours vu beaucoup de monde.
Oui, beaucoup, oui. Dans le commerce, bien sûr. Puis à l'école, les enfants. C'est très attrayant, les enfants. Bonjour, madame.
Et aujourd'hui, alors, vous dites que vous êtes seule depuis que...
Oui. Je vous dis, je n'ai que ses neveux qui... Bon, un coup de téléphone, mais vraiment rarement. C'est tout, voilà. Pas abandonné complètement, non, mais enfin... Délaissé, dirons-nous. Vous savez, chacun a sa vie propre. Il faut qu'ils la fassent. Ils ont des enfants à élever. C'est normal qu'ils s'en occupent.
Est-ce que cet état de solitude, vous avez l'impression que ça correspond à la vie que vous, vous avez eue?
Ben oui, parce que j'ai pas eu d'enfants, j'ai pas eu de... Alors évidemment. Vous savez... Du soir au matin, du matin au soir, sans avoir personne à qui parler, ben c'est terrible. Je n'avais qu'un chat dont j'ai été obligée de me défaire pour rentrer ici. Là, ça va, ça allait, mais un chat ne peut pas vous répondre.
À partir de quand vous avez eu le sentiment d'être vieille?
C'est depuis que j'ai perdu mon mari, bien sûr, il y a 12 ans. Alors là, je me suis sentie vieille. Vous allez me dire, la retraite aussi, on commence à vieillir. Quand on est à la retraite, on n'a pas de but défini, rien. Les personnes qui ont des enfants peuvent se rattacher à eux, même s'ils sont ingrats. Je sais bien, quelquefois, les enfants ne sont pas formidables avec leurs parents. Mais enfin, eux, ils les aiment, c'est déjà quelque chose. Je me rappelle un poème qui disait « Aime un nuage, aime une nue, mais aime ». Et quand vous n'avez personne à aimer, moi, à part mon chat, j'avais que ça. Oh, je sais bien, on vous dit, il ne faut pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas vous introduire chez les gens et dire, je suis toute seule, accueillez-moi. Vous ne pouvez pas leur dire. Vous avez des voisins qui sont des couples. Bon, ils sont tranquilles chez eux, pourquoi aller les ennuyer? On ne peut pas s'imposer. On ne peut pas s'imposer chez les gens. Puis n'avoir personne pour vous conseiller dans les choses courantes de la vie. Savoir ce qu'il y a à faire au point de vue retraite, les réclamations à faire, par exemple vos comptes en banque, vous les faites vous-même. Vérifiez tout ça. Si quelqu'un était là pour vous aider, on est deux à le faire, comprenez-vous?
Vous côtoyez ici des personnes très handicapées. Ou oui. Physiquement ou oui, psychiquement oui. Ça vous pèse?
Les deux, bien sûr que ça pèse.
Est-ce que ça vous fait peur?
Non. Vous avez des personnes qui ont peur de la mort, ben ma foi, elle viendra quand elle viendra. Hein.
Vous en avez peur?
Non, non, j'ai pas peur. Je sais pas quand ce sera le moment, mais pour le moment, j'en ai pas peur. Il faut bien finir. Quand on est, d'ailleurs, on est condamné à mort, alors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut l'accepter.
Vous avez des moments de plaisir ici?
Oh, ben oui, il y a des petites activités qui vous changent d'esprit, mais vraiment du plaisir. Je crois pas que j'en ai beaucoup maintenant.
Catherine Ross, vous êtes psychologue, vous achevez actuellement un travail de recherche sur le soutien familial et la solidarité de voisinage, qui, selon vous, contribuerait au maintien à domicile des personnes âgées. Pourquoi, à votre avis, les vieilles personnes qu'on a rencontrées et qui disent souffrir de solitude relient très souvent ce sentiment à une notion d'abandon, d'être laissé à l'écart, tenu à l'écart par leurs proches, leurs enfants et voire par l'ensemble de la société?
Je crois qu'on peut répondre à deux niveaux. À un niveau social, effectivement, on peut peut-être se dire, enfin, on se dit effectivement que quelle image a la personne âgée dans notre société et quelle place on lui laisse. Ça, c'est une réalité sociale qui existe et qu'on ne peut pas nier, qui est que, bon, vaut mieux être jeune et en bonne santé actuellement dans notre société que vieux, et perdant ses moyens. Hein. Donc, on a beaucoup à travailler sur la place qu'on laisse aux vieux au niveau social. Et puis, il y a un autre niveau qui est plus un niveau familial, un niveau personnel, hein, comment les gens vivent ce sentiment d'abandon. Moi, je crois que le sentiment d'abandon, il s'origine en nous, je dirais, de longue date. La première séparation que l'on vit, c'est cette chute originelle qu'est la naissance. La dernière séparation qu'on va vivre, la séparation ultime, c'est la mort, avec la bascule finale, comme disent les vieux. Hein. Et entre ces deux moments-là, notre vie va être jalonnée d'attachement et de séparation. Peut-être que pour le vieillard, il y a un nombre de séparations et de pertes qui le fait disjoncter au bout d'un moment. Moi, je suis souvent effarée dans les récits des gens âgés de voir le nombre de pertes subies hein, par rapport à toute une fratrie. Parfois, quand des gens âgés vont nous dire « Moi, j'étais un enfant parmi 10 ou 12 parce qu'il y avait encore beaucoup de familles nombreuses et je reste le seul. J'avais un conjoint, je ne l'ai plus. » Pire encore, quand il y a eu décès d'enfants. Ce qui a quelque chose de terrible et d'illogique. Une génération doit partir l'une après l'autre et il ne faut pas que les choses s'inversent. La personne âgée va souvent être submergée par toutes ces pertes.
Est-ce que vous ne pensez pas aussi que les individus d'aujourd'hui, qui sont des gens d'âge mûr, qui ont des vieux parents, poursuivent des valeurs beaucoup plus individuelles qu'il y a 30 ou 40 ans et du coup négligent leurs parents ?
Moi, je pense pas qu'il y a négligence, il y a fuite, il y a souvent une impossibilité de faire face à la vieillesse d'un parent. Parce qu'un parent va renvoyer tellement d'angoisse par rapport à ce qu'il vit que l'enfant n'arrive pas à supporter face à ça. Donc, une des solutions, c'est de fuir. Bon, ça peut être ressenti par l'autre comme un abandon, mais je veux dire, on peut aussi beaucoup dire de qu'est-ce que ressent un enfant face à un parent qui vieillit lui-même de ce sentiment d'abandon. Le parent n'est plus ce qu'il était, on se sent abandonné par ce parent-là. Le parent devient fragile, devient vulnérable, risque de mourir. Ça aussi, c'est sacrément vécu comme abandon par les enfants. Alors peut-être que l'histoire de parent-enfant, c'est parfois deux solitudes qui se rencontrent. Enfin, je ne sais pas, moi je dis ça spontanément, mais je crois que parfois il y a plein de choses qui ne peuvent pas se dire parce qu'elles ne sont pas suffisamment élaborées, parce qu'on n'a pas l'habitude parfois de nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens qui crèvent, par exemple, de jamais avoir pu se dire « je t'aime ». Et ça, on en rencontre des problématiques comme ça entre parents-enfants. Moi, je crois que dans la mobilisation de certains enfants, on a parfois cette quête, cette recherche de reconnaissance. Moi, j'ai le souvenir de ce cas extrême d'une fille par rapport à sa mère en disant « mais je l'aide ». Et bon, il me semble qu'elle a toujours préféré les autres par rapport à moi. Mais avant de mourir, il faut qu'elle me dise une fois « je t'aime ». Il faut qu'elle me reconnaisse. Là aussi, c'est ce que ressent l'enfant par rapport aux parents. Ce n'est pas forcément lié à une réalité. C'est-à-dire qu'un parent a peut-être eu l'impression de tout faire ou de faire beaucoup pour son enfant, mais l'enfant ne l'a peut-être pas ressenti comme tel. Enfin, je veux dire, il y a une part de nous qui restera toujours terriblement seule. Et cette capacité à être seule, c'est peut-être ça qu'on travaille tout au long d'une vie. Vous savez, on rencontre souvent ces vieux qui, même s'ils semblent relativement isolés, c'est-à-dire avec pas forcément un entourage très très important, mais qui semble plein, qui semble avec une certaine sérénité, voire une certaine richesse intérieure. Et bien peut-être que le travail de vieillissement, c'est ça, c'est arriver à avoir une partie en soi en laquelle on a confiance, c'est avoir, se sentir suffisamment plein et avec des images intérieures suffisamment sécurisantes, qui fait qu'on a suffisamment confiance en soi et on se dit que l'angoisse de séparation, on va la connaître, mais on va pouvoir la contenir et y faire face. C'est peut-être ça, vieillir. Vieillir, c'est faire face à toutes les angoisses de
mais
séparation.
Je l'aimais tant, je l'aimais tant, je l'aimais tant. Il me disait encore, prends cet anneau qui brille, à ton doigt je le mets. Prends aussi ce baiser sur ton front qui s'incline, et vous avez reçu ce baiser-là, ma fille. Hélas, mon père, je l'aimais tant. Voilà. C'est la salle à manger. Ça toujours. Il y a longtemps que c'est la salle à manger.
Alors, ce piano là, au fond de la salle à manger, c'est oui. Vous qui y ont joué ?
Ah, oui, j'en ai beaucoup joué. Oui, j'en ai joué pendant des années. Et à présent, je ne sais même plus lire les notes. Et puis les faux. Mais enfin, à l'occasion, je joue encore quelques petites choses. Bon, encore garder la vélocité des doigts un peu.
Alors, on avance dans le couloir là.
Alors, là, ça a été l'atelier.
Pardon ?
Ça a été l'atelier. Mais ça a été tout changé. Nous avions des tables pour les ouvrières, ici, une table de repassage, tout ça, je m'en suis débarrassée. Je n'ai gardé que la table là-bas.
Sur cette table-là, vous faisiez des chapeaux, alors ?
Ben, nous avions des ouvrières qui les faisaient, c'était pas nous, on les commandait, vous comprenez ?
Vous avez eu jusqu'à combien d'ouvrières ?
Oh, on en avait une pour les machines, une pour la mode, une qui faisait des bonnets de baptême. On faisait des bonnets de baptême, des bonnets de première communion, et tout ça, ça a disparu complètement de la circulation. On ne saurait même plus les faire.
Marie Randibert, vous avez travaillé jusqu'à quel âge ?
79.
Est-ce que vous pensez qu'on vieillit comme on a vécu ?
Mais j'ai jamais cru que je viendrais vieillir comme ça, moi. J'avais jamais pensé que j'arriverais à 93 ans. Vous savez, on vieillit sans s'en rendre compte.
Pourquoi vous avez travaillé si longtemps ?
Ben, ça me plaisait. J'aimais faire ce travail. Et puis j'avais des amis qui étaient dans le même métier. Alors, on se voyait. J'avais des amis du passage de l'Argue, là, chez Cartier. Vous connaissez peut-être la maison. Alors là, c'était des amis de 50 ans, 60 ans. Alors, on échangeait nos idées, elles montaient, puis voilà.
On s'assoit alors dans cette pièce ?
Mais là, c'est des... J'en dis pas tant, monsieur le curé.
Marie Randibert, vous oui. n'avez jamais été mariée ?
Non. J'ai toujours été célibataire.
Et vous avez
sans tout... amoureux.
Sans amoureux.
Sans amoureux. À cette époque, on n'existait pas. Je suis de la guerre. Et alors, voyez, j'avais un docteur à côté de moi qui m'avait dit qu'on allait payer la guerre. Parce que tous les jeunes de 20 ans sont restés à la guerre de 14. Parce que j'ai vu la guerre de 14. Toute ma vie, 14, j'avais 14 ans quand la guerre s'est déclarée. Puis après 39, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et puis la guerre du Golfe. Alors, et puis à présent, on va recommencer peut-être la guerre, alors c'est ça qui est à redouter.
La solitude, ça a toujours été votre compagne, finalement.
Et oui, depuis la mort de mes parents. J'ai perdu mon père 4 ans et demi, maman, j'en avais 19 ans.
Est-ce que vous souffrez de la solitude alors, ou est-ce que...
Oh non, j'en souffre pas. Oh non, parce que je sors. Jusqu'à présent, j'étais bien valide. Et puis j'ai souvent des visites, je vous dis bien, toutes ces amies que j'avais, elles venaient me voir. Et hier, j'ai eu 3 ou 4 coups de téléphone.
Aujourd'hui, vous ne travaillez plus.
Plus.
De quoi se nourrit votre vie et votre
ben,
pensée ?
J'ai une retraite.
Ah, non, ah, je parle dans votre tête.
Dans ma tête, je pense au passé, à la jeunesse, je pense au présent, puis je m'occupe un peu de politique. Ah. Ça m'intéresse bien.
Vous lisez la presse ?
Ben, par bien, je ne peux plus lire. Mais alors, je m'occupe, j'écoute la marche du siècle, j'écoute Question pour un champion, j'écoute, j'ai écouté M. Mitterrand quand il a parlé l'autre soir, pour des vœux, où il a annoncé la guerre, presque. Et puis voilà.
Vous avez l'impression d'être encore en prise avec le monde.
Ah oui, oui. Mais je suis pas hors du monde. Pourquoi serais-je hors du monde ? Quand je serai dans un parti ? Ça vous fait rire, ça ? Vous ne pensiez pas que j'étais aussi bavarde ?
Vous dialoguez quand vous êtes seule ?
Ah oui, je parle toute seule. Je fais la question, à demander la réponse. Puis je chante. Du reste, ils ont dit que pour les personnes d'un âge, c'était très bon le chant. Ce baiser-là, ma fille, hélas, mon père, je l'aimais tant. Hélas, mon père, je l'aimais tant. L'ai-je bien entendu, mon bonheur est extrême. Ah, redis-moi, je t'aime. Le monde n'est plus rien, pour toi je l'abandonne. Et puis, puisque tu le veux, oh ma douce madone, parlons-nous, aimons-nous donc, et pour toujours.
Lucienne Trouche, vous avez 77, presque 78 ans. Est-ce que vous considérez que vous êtes vieille ?
Non. Ça paraît un peu bizarre, mais non. Et puis, je pense que quand j'aurai même, si je vais jusqu'à 90 et 100 ans, je me considérerai jamais comme vieille. Parce que je garde en moi une énergie farouche, même avec mes handicaps, de rester justement autre chose que vieille. De garder mon tonus, de garder tout ce que j'ai en moi, d'essayer de le faire passer jusqu'à la fin. Et de ne pas m'anéantir dans l'immobilisme et dans ce que je vois souvent dans les maisons.
Quand est-ce que vous avez commencé à penser à tout ça ? À quel âge ?
Oui, c'est vrai. On n'y pense pas quand on est jeune. Et j'y pensais pas quand j'avais beaucoup d'activités, mes enfants autour de moi, le mari, tout ça. On avait une vie très dense. J'y pensais pas. J'ai commencé d'y penser quand mes parents ont commencé à chuter. Qui sont devenus un peu impotents. Et là, j'ai commencé de comprendre qu'il fallait lutter contre la vieillesse, justement, et qu'il fallait lutter contre tout ce qui s'est ancré autour de la vieillesse, c'est-à-dire le système de la société.
C'est une véritable révolution, mais c'est exact, il faut que cette révolution se fasse. Et qu'on ne considère plus les gens âgés handicapés comme des objets, mais qu'on les considère toujours comme des vivants. Je voudrais que ça change et qu'on donne aux gens la possibilité, quand ils ont encore quelque chose à donner, de le donner. Et que quand on rentre dans ces maisons, il y a un accueil autre que ce qui est donné maintenant. C'est-à-dire qu'on nous accueille en nous demandant nos ressources.
Financières.
Oui. Mais on devrait nous accueillir en nous demandant nos ressources. Ce qu'on a encore en nous, la moelle qui est encore en nous, ce qu'on peut encore extraire de nous, ce qu'on peut encore donner à la société, parce qu'on peut encore donner beaucoup. Pourquoi, dès l'instant que vous êtes dans une maison de retraite, on vous oblige, dans beaucoup, à être réglementé comme une pendule, c'est-à-dire vous levez le matin, tous les matins pendant 365 jours à la même heure, descendre déjeuner, remonter, après c'est la toilette, que vous le vouliez ou non, vous êtes passé à la douche, on vous lave la tête tel jour, c'est rythmé. Vous n'avez plus de désir puisque vous pouvez plus demander « je veux pas ». C'est imposé. Vous êtes dans des rails, vous êtes guidé. Du matin jusqu'au soir, vous êtes guidé. À part quelques maisons où des nouveaux directeurs ont déjà commencé, parce qu'ils sont tout à fait d'accord avec nous, que ce système doit changer. Donc, à part quelques maisons où ça fonctionne déjà très bien, il y a un self-service pour le petit déjeuner, c'est-à-dire que vous pouvez le prendre de 7 à 9 heures. Vous pouvez le prendre en bas, vous le pouvez prendre dans votre chambre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas le prendre, vous ne le prenez pas. Il y a déjà une grande liberté. Pour les menus, on commence à demander aux résidents qu'ils participent à l'élaboration des menus. Parce que ça non plus, vous n'étiez pas concerté. C'est-à-dire que le lundi, vous aviez le boudin aux pommes, le mardi, vous aviez la purée mousseline, et c'était 365 jours par an.
Chaque semaine, ça
recommence. Tous les lundis, vous mangiez le boudin aux pommes, le machin, le truc, et même si ça ne vous plaisait pas, vous étiez obligé d'en passer par là ou par la porte. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est nous. C'est nous qui voyons ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait nous apporter une fin de vie meilleure, ce qui pourrait faire qu'on ait encore envie de faire des projets, qu'on ait encore envie de vivre, purement et simplement.
Je n'ai jamais regardé le temps. Dis donc.
En théorie, tout le monde est d'accord pour ne pas traiter les vieux comme un groupe dépendant, comme des individus dont il suffirait de satisfaire les besoins. L'UNESCO, le Vatican, notre vénérable président, tous affirment dans des résolutions solennelles que les vieux doivent être considérés comme partie prenante de la communauté sociale et comme des agents de son développement. Mais dans les faits, nos dirigeants acceptent que les vieux n'aient ni rôle social, ni même le droit à la parole dans les espaces séparés où ils sont confinés. Un processus d'exclusion que démonte Bernadette Vesset-Puigjalon.
On a procédé par division. La société a procédé par division. Vous prenez la société, vous posez certaines valeurs comme l'activité. Vous récupérez les actifs, bien sûr, vous récupérez les retraités actifs, mais il reste les inactifs, ceux qui justement ne sont plus dans ce mouvement. Alors vous pouvez poser la valeur sagesse, vous récupérez les vieux sages, mais je dirais de manière archétypique, il reste les vieux fous en opposition à vieux sages. À ce moment-là, vous pouvez poser la valeur silence, vous intégrez encore une catégorie, ceux qui se font tout petits, mais vous arrivez à la question du vieillard dément, gravataire, incontinent, qui hurle sa souffrance, et celui-là, on n'a pas de valeur à lui proposer. Et moi, je dis que l'opération ne tombe pas juste, et que tant qu'on n'a pas résolu la question de l'intégration, qu'est-ce qu'a à donner ce vieux-là, que l'on qualifie aujourd'hui de dépendant, eh bien, on n'a pas résolu la question de la vieillesse. Et forcément, vieillir devient individuellement très angoissant. Je crois que la seule question qui vaut, c'est qu'est-ce qu'il a à rendre ? Qu'est-ce qu'on a à échanger ? Et je crois que ce que l'on a à échanger, justement, c'est très profondément, c'est sa vieillesse. C'est ce que dit le message, c'est la question du sens de la vie, qu'il pose avec plus d'acuité que personne d'autre. Et je trouve que dans une société où on refuse de recevoir ce que l'on qualifie d'antivaleurs, mais c'est une définition très culturelle, les valeurs dans une société, eh bien à ce moment-là, je dirais que chaque vieux y perd beaucoup, parce qu'il n'a socialement aucune valeur d'intégration qui lui est proposée, mais je dirais que chaque jeune y perd beaucoup. Parce que, et là j'aime bien ce que dit Baudrillard quand il parle de l'échange symbolique ou de la mort, je ne suis jeune que parce que je rencontre le vieux, je ne suis rapide que parce que je rencontre le plus lent, sinon je ne suis rien. Enfin, c'est vraiment se poser par la rencontre. Les vieux, je dirais, majoritairement, ont du temps. Et j'aime bien dire...
Et leur problème, c'est pas de le vendre, ils le proposent.
Voilà, c'est de le donner. Il y a une phrase de Karin Blixen, que j'aime beaucoup, dans un de ses contes d'hiver, qui dit « Qu'est-ce qui coûte très cher à obtenir, que l'on propose gratuitement, et qui presque toujours est refusé ?» Et elle répond « L'expérience des vieilles gens. » Il y a toujours cette possibilité, tout simplement, de s'asseoir et de partager un autre rythme de temps. Soit dans la parole, à partir d'histoires racontées, ce qui peut être superbe, mais aussi dans le silence. Et ça, c'est une expérience très forte, mais que l'on n'ose plus faire, je crois.
Il y a d'autres sociétés où ce temps est pris. Je pense à l'Afrique, dans l'histoire aussi, les vieux... ont eu d'autres statuts, une autre attention qui leur était portée.
Oui, alors là aussi, il faut relativiser. Quand on dit « autrefois », il faut savoir que dans nos sociétés, les historiens l'ont bien montré, Ariès par exemple, mais d'autres aussi, Bois, Minois, Guiton, etc., montrent que notre société a relativement toujours été dure à sa vieillesse, qu'on y a raisonné beaucoup en termes d'activité. Ariès rappelle qu'au Moyen-Âge, quand le vieux cédait le droit d'exploitation de la terre à son fils, il faisait stipuler devant notaire qu'il continuait d'avoir le droit d'entrer dans la maison par la porte principale, etc. Et Ariès dit justement, s'il éprouvait le besoin de le faire stipuler devant notaire, c'est que c'était pas aussi évident que ça. Donc je crois qu'il faut aussi... C'est vrai qu'autrefois, on cohabitait davantage, mais interroger les gens autour de vous, quand il y avait de situations de cohabitation, ça ne veut pas dire que le vieux était honoré. Alors ça, les historiens le montrent bien aussi, ça n'est pas parce qu'on chante la vieillesse dans la peinture, dans la littérature, qu'on lit les poèmes de Hugo, etc., qui sont superbes, que concrètement, la place du vieux était garantie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point par rapport à l'Afrique, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus complexe aussi que ça n'y paraît. L'Afrique, effectivement, a su proposer une compensation sociologique, culturelle, au moins biologique. Par exemple, Louis-Vincent Thomas dit... En Afrique, du vieillard qui devient sourd, on ne dit pas « Ah, il entend moins bien, ah, c'est plus la peine de lui parler, ah, ceci ». On dit « Ah oui, il est tellement grand que nos paroles n'arrivent pas jusqu'à lui ». Autrement dit, le déficit est le même, mais on grandit le vieux à travers son déficit, ce qui est superbe. Simplement, bon, la situation du vieillard en Afrique, elle n'est pas non plus seulement idyllique, c'est fondé sur des questions de conflits de génération, des enjeux de pouvoir.
D'autorité, c'est ça.
Voilà, oui. Tu as le savoir mythique, mais moi je récupère, je dirais, les femmes et les troupeaux. Enfin, c'est plus complexe que ça. Et puis la situation de l'Afrique aujourd'hui n'est plus celle-là. Et en plus, je dirais que les bases sont trop différentes. C'est une société qui postule l'existence d'un au-delà. C'est une société qui est sur un savoir oral. Il y a bien trop d'autres composantes où je ne crois pas qu'on
vieillir,
peut
vieillir, c'est se rapprocher du royaume des morts.
Voilà, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire « Ah, c'est vrai, je crois qu'on a quelque chose à apprendre d'autres sociétés. » Mais beaucoup plus dans la démarche d'avoir trouvé une réponse culturelle au déficit biologique, plutôt que de dire « Il faut faire comme chez eux », parce que le « comme chez eux » est inapplicable. Il faut trouver une autre réponse.
Marguerite Deschamps, je vous trouve dans votre lit, là. Vous avez fait un petit séjour à l'hôpital et puis vous êtes revenue dans cette maison, hein, une maison pour personnes âgées dépendantes. Il y a combien de temps que vous êtes locataire ici?
Deux ans.
Vous y êtes venue de votre plein gré ici?
Non, je le dis carrément. J'ai hésité beaucoup, d'ailleurs une première fois j'avais refusé. Et la deuxième fois j'étais obligée d'y aller parce que j'étais trop seule. La solitude est terrible quand on n'a pas d'enfants, ou peut-être quelquefois on a des enfants et qui viennent pas vous voir. C'est possible aussi, vous savez, malheureusement, ça se voit. Mais je vous assure que quand on n'a pas d'enfants et qu'on est toute seule, ben, j'ai bien des parents, ils sont très gentils avec moi, mes neveux et nièces, mais c'est pas pareil. Ils n'ont jamais le temps. Ils travaillent. Ils ont leur travail. Ils ont leur vie de mari, les femmes, ils sont obligés d'être chez eux avec leurs enfants, quelquefois. Alors...
Comment se fait-il, à votre avis, qu'en restant chez vous, vous n'aviez plus de contact? Ça venait d'où? Vos voisins, vous avez eu des amis dans votre vie. Oui. Comment se fait-il que vous soyez retrouvés comme ça, isolés des...
Mais ça se fait, monsieur. C'est... Malheureusement, j'ai entendu ça, moi, avant de perdre mon mari. Je ne le comprenais pas non plus. Et les amis, ben, il n'y en a pas beaucoup, vous savez, qui restent vers vous. Ils viennent moins vous voir, ils ont moins de contact avec vous. On a des choses de vous délaisser, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Mais je cherche, mais je ne comprends pas. Envie. Cette solitude est affreuse. Tandis qu'ici, vous avez quand même des camarades, on se cause. On se cause, on parle du temps, on parle de tout, de notre vie. Mais si vous tombez bien, si vous êtes dans une maison qui vous aide moralement et tout, eh bien, je vous assure que maintenant, moi, je suis bien. J'ai demandé de venir, là, quand j'étais à l'hôpital. Eh bien, si je vous disais que toutes les petites aides-soignantes, elles sont venues me dire un petit bonjour, eh bien, j'ai dit, je suis pas si méchante que ça. Moi, parce que moi, je me laisse pas faire. Eh bien, j'ai dit, je suis pas si méchante que ça. Elles viennent toutes m'embrasser. Ça m'a fait plaisir, vous savez, ce matin. Me dire, comment que ça va? Si vous saviez ce mot, cette gentillesse.
Ça te sert à quoi? C'est pour faire de la musique. Dis donc.
Arrivé en âge, il y a aucun remède qui peut vous sauver. On ne peut pas vous rajeunir, c'est impossible. N'est pas. J'ai pas peur de mourir du tout, au contraire.
Pourquoi?
Parce que j'en ai assez de la vie. J'ai un cancer généralisé. Et ce qui me fait mal, c'est surtout dans la bouche. Eh bien, quand j'ai dit à mon docteur, dernièrement, je lui ai dit « je souffre trop ». Mais il me dit, vous en avez bien l'habitude. Voilà, la consolation. Alors, j'ai vécu 90 ans, ça fait quelque chose. Et j'ai eu 67 ans de mariage. Personne ne s'occupe de moi. Personne. Vous savez, on est vieux, on ne sert à plus rien. Quand je peux faire quelque chose, je le fais. Mais je ne peux plus rien faire. Parce qu'il y a une chose qui t'embête entière quand je prends un malaise, alors que je reste longtemps par terre, ou toute une nuit par terre, c'est pas drôle. Quand je reviens à moi, je sais pas d'où je viens, c'est rien. Je peux si bien mourir à ce moment-là, ce serait épatant. Mais dans le reste du temps, dans la journée, je souffre. Et je sais pas pour ça que je meurs. Mon heure n'est pas là. Faut pas se plaindre. Quand on arrive à un âge, il faut savoir prendre sa vieillesse et la du bon côté et se contenter de ce qu'on a.
Bernadette Vessé, puis j'allons vieillir, c'est courir le risque sérieux de perdre partiellement ou totalement son indépendance, de ne plus pouvoir accomplir des gestes quotidiens. Ce risque est lié au vieillissement naturel du corps, mais on a l'impression que ce risque est aggravé aujourd'hui par les progrès de la médecine, qui gagne finalement de plus en plus de combats contre la mort. Alors, selon certains scientifiques, même atteindre l'âge de 110 ans dans une ou deux générations, ça sera presque banal. On a envie de demander à quoi bon, si c'est pour devenir des êtres prolongés, assistés, sans désir, sans projet.
D'abord, je ne dis pas à quoi bon, je dis tant mieux. Je dis tant mieux parce que c'est quand même un combat que l'humanité mène depuis qu'elle existe, je veux dire, d'essayer de prolonger la vie. Ça a été un rêve. Or, nos générations sont les premières à bénéficier quand même de cet allongement de l'espérance de vie. Donc moi, je dis tant mieux. Et il ne faut pas transformer cette victoire en déroute, ça c'est vrai. Mais d'abord, tant mieux. Alors ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces années en plus? Ça, c'est vrai. Alors, sur le plan, c'est vrai qu'il y a des handicaps qui peuvent s'installer, mais il y a, je dirais, l'approche statistique, à tel âge, tel type de handicap, etc. Mais en face de cette approche statistique, je dirais, la statistique ne recouvre jamais la vie. Il y a le vécu intime d'un individu. C'est vrai, je peux marcher moins bien, mais apprécier encore tellement de choses, avoir tellement d'échanges qu'à ce moment-là, je veux dire, marcher moins bien s'inscrit dans l'ordre des choses. Enfin, je crois qu'il faut... Le problème de la dépendance actuellement, c'est que c'est extrêmement réducteur, c'est stigmatisant. Je crois qu'il faut bien se rappeler que cette équation vieillesse égale dépendance vient du fait qu'on n'a pas su trouver autre chose. Hein. Et alors à ce moment-là, ça a été facile de qualifier cette population-là de dépendante parce que à ce moment-là, on avait la solution. Quand on est dépendant, il ne reste plus qu'à prendre en charge. Mais je crois que fondamentalement, il faut refuser cette équation. Vieillesse n'égale pas dépendance. Vieillesse égale quelque chose de très complexe, où il y a du plus d'années mêlées à des moins biologiques. Et on ne peut pas réduire. Donc moi, je refuse très profondément, dans un premier temps, cette équation. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je dirais, il faut bien sûr aider aux difficultés de la vie quotidienne, mais aider avec cette optique toujours présente du respect de l'autonomie de celui qui est aidé. Et l'autonomie, c'est quoi? Ça n'est pas seulement faire seul les gestes de la vie quotidienne, c'est avant tout, étymologiquement, faire ses propres choix, guider sa vie. Et ça, quelle que soit la situation physique dans laquelle on est, on peut toujours guider sa vie. Le problème est différent quand il y a des détériorations psychiques. C'est plus complexe. Mais c'est vrai à n'importe quel âge de la vie à ce moment-là. Ça n'est pas spécifique à la vieillesse.
Donc vous parliez d'équation. L'autre équation qui serait dépendance égale solitude ne vous paraît pas fatale?
Non, 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 absolument pas. Je crois que le problème de la solitude, il vient en grande partie du refus de cet échange, du refus de recevoir de la part d'autres catégories qui sont centrées uniquement sur des valeurs, encore une fois, d'activité, de dynamisme, de progrès, de jeunesse, ce qui est littéralement fou, excusez-moi, du refus de recevoir ce qui me renvoie d'autres valeurs et ce qui m'interroge sur le sens de la vie. Et c'est fondamentalement, je dirais philosophiquement, pour moi, de cela dont le vieux est porteur. Et à ce moment-là, peu importe que l'on soit en face, je dirais, toujours de manière archétypique, d'un vieux sage ou d'un vieux fou. Peu importe, il y a autant à recevoir de l'un que de l'autre.
Ça fait pas mal de temps. Jamais regardé le temps.
Lucienne Trouche, est-ce que la solitude, parfois vous la vivez de façon positive? Écrire, par exemple, c'est se retrouver seul, face à soi-même.
Oui.
Est-ce que vous la vivez aussi comme un état qui crée les conditions d'une liberté individuelle, d'une production individuelle, quelque chose de bien, finalement, et de nécessaire?
On a besoin de temps en temps d'avoir un moment de tranquillité, de solitude. Ça fait du bien. Et puis, c'est vrai que ça permet de faire un retour en soi-même, de voir des tas de choses. Et c'est ce qui fait que j'écris. C'est quand je suis seule que j'écris. C'est quand je suis seule que j'ai beaucoup de choses qui me motivent, qui font que je vais de l'avant. Hein. Justement, je pense que cette solitude, elle est aussi la cheville du travail que je fais. C'est de cette solitude qu'est née mon envie de changer un tas de choses, justement. Oui, oui, mais je pense que oui, vous avez raison. Ça a été un petit peu le pivot, le départ de ma deuxième vie.
Parce que je vis une deuxième vie, hein, de toute façon. Ça n'a rien à voir avec la vie d'avant. Dans ma vie d'avant, j'avais pas le temps d'ailleurs. J'allais jamais chez le coiffeur. Maintenant, c'est régulier. Je vais chez le coiffeur le plus souvent possible. Parce que ça me sort, ça me motive, ça me fait du bien. Ça me change les idées. Je dis, vous me lavez la tête, lavez-moi le cerveau en même temps. Mais c'est exact quand même. Vous me faites réfléchir, là, vous voyez. C'est exact. Cette solitude m'a quand même servi à quelque chose. Et ces grands désarrois et ces grands coups du sort, parce que je crois que j'ai subi des choses épouvantables. En plus, j'ai ce cancer qui me ronge, dont je me serais bien passée, et qui m'a diminuée physiquement. Tout ça me fait énormément réfléchir et me fait aller de l'avant. C'est extraordinaire, mais c'est vrai. Ça me pousse en avant. Ça me donne envie de montrer, justement, oui, tout ça, qu'on peut faire quelque chose jusqu'à la fin. Même en étant solitaire, même en ayant des souffrances corporelles, même en ayant perdu beaucoup de choses, on peut encore récupérer une parcelle de besoins, de projets, de vie, de bien-être.
On l'appelait Suzette, son père était bougnat, il vendait de la braisette comme tous les Auvergnats. Sa fille était si belle qu'un tas de galapia, bougri de bougra, lui faisait du plat, et sa maman qui voyait ça.
On pourrait résoudre, non pas tous les problèmes de solitude, c'est absurde, c'est aberrant, c'est totalitaire, c'est monstrueux, mais qu'on pourrait résoudre une partie de ce problème de la solitude en intégrant les vieux, c'est-à-dire en ouvrant les institutions, en allant les voir, en changeant le regard culturel. Ça veut dire refuser une approche de la dépendance qui soit trop en termes biologiques, mais que l'on fasse, que l'on dise, le vieux n'est jamais seulement un objet de soin, le vieux est un sujet. Aucun vieux ne dit « j'ai été », aucun vieux ne dit « je reste ». Chacun, à tout moment de sa vie, dit « je suis, je suis ». Et c'est ce présent qu'il faut rencontrer, parce que sur ce présent, l'âge ne joue pas. L'intensité de l'être est la même à tous les âges.
Il s'aimait follement près des amants, et les amants, les bougnards ronflaient tranquillement, et tout en ronflant sans trêve.
C'était Les années solitude avec Catherine Ross, psychologue, Bernadette Vesset-Pujalon, sociologue, et les témoignages de Lucienne Trouche, Jeanne Augier, Marie Randibert, Marguerite Deschamps, Louise Meunier, Madame Caro et Joseph Thora. Un reportage de Marc Gius, mixage Agnès Varnier, équipe de réalisation Brigitte Aléo et Christine Robert.
C'était Grand Angle, les années solitude. Une émission de Marc Gius réalisée par Brigitte Aléo et Christine Robert, diffusée pour la première fois le 17 avril 1993 sur France Culture.